Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est Vive la Sociale. Ce soir, nous allons discuter des luttes récentes dans le 92 et notamment dans le secteur de l'éducation et à la poste. Et voilà, je vous laisse vous présenter, Pierre-Alexandre.
Oui, bonjour, donc je suis Pierre-Alexandre Fournier, enseignant au lycée Maupassant de Colombes. Et donc, gréviste, comme beaucoup, suite à une annonce de réduction de nos moyens pour l'enseignement l'an prochain. Donc, c'est une grève qui a commencé en janvier, qui est assez longue, qui s'est interrompue en raison des vacances, et pour lesquelles nous avons mené des actions un petit peu spéciales qui nous ont valu une couverture médiatique, disons, nationale. Et c'est une action qui est pour nous assez nouvelle dans sa forme. Et dans la manière dont les gens se sont mobilisés. Donc, je suis affilié, je ne suis pas syndiqué. Ceci dit, dans notre établissement, tous les syndicats sont unis dans une même ligne de lutte.
Yannick ?
Oui, alors moi je m'appelle Yannick Lenné, je suis aussi enseignant au lycée Maupassant de Colombes et je suis militant au syndicat Sud Éducation.
Rémi ?
Moi je suis Rémi, je suis également enseignant au lycée Guy de Maupassant à Colombes et je suis militant à la CGT Éducation 92. Et je vais peut-être revenir très rapidement sur cette semaine, qui est une semaine de rentrée. Et donc, comme disait Pierre-Alexandre, c'est une semaine qui fait suite à trois semaines de mobilisation intense sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Donc, chez nous, dans le 92 et dans notre établissement, c'est plutôt une semaine de remobilisation, de retour progressif. Alors, il y a eu un retour à la normale, pas vraiment à la normale, mais en tout cas un retour au travail pour préparer un retour de la mobilisation, parce qu'on sait que quand on rentre dans des mouvements un petit peu longs, c'est des mouvements qui impliquent des appels d'air et des moments de pause pour pouvoir repartir ensuite. Voilà.
Alors vous êtes en plein dans le mouvement, enfin je t'interromps, vous êtes en plein dans le mouvement, mais réexpliquons pourquoi on a parlé un tout petit peu de problème de dotation, de moyens, c'est un projet national, mais les causes, alors qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui il y a une mobilisation importante, notamment dans le 92?
Alors, si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé, ça commence, on va dire, à la rentrée dernière. Un rapport indique que l'éducation prioritaire va être revue, c'est-à-dire les établissements qui sont dans les quartiers les plus défavorisés. Et que l'idée, c'est de, finalement, de ce rapport, c'est de concentrer les moyens répartis sur tous ces établissements. Sur quelques-uns seulement. Alors ça a déjà choqué pas mal de collègues. Il y a pas mal de gens, y compris des gens comme moi qui ne se faisaient pas tellement d'illusions sur ce gouvernement, qui ont quand même été étonnés de voir que l'éducation qui devait être une priorité, et encore plus dans les quartiers populaires, finalement on va se retrouver comme avec le dernier gouvernement avec des moyens en baisse. Et finalement donc ça a permis une première base de discussion avec les collègues et des premières petites mobilisations par rapport à ça. Et puis la deuxième étape importante, c'était le mois de janvier. On a appris effectivement que la plupart des établissements qui sont labellisés éducation prioritaire, donc dans les quartiers les plus défavorisés, encore une fois, des Hauts-de-Seine, auraient des moyens moins importants à la rentrée prochaine qu'il ne l'avait cette année. Alors il faut quand même savoir que sous l'ère Sarkozy, on a perdu déjà énormément de moyens et que la plupart de ce qui faisait l'éducation prioritaire, c'est-à-dire des effectifs réduits dans les classes, des modules d'aide et de soutien aux élèves en difficulté, etc., avait déjà été beaucoup grignoté. Donc on pensait avoir au moins une pause, si ce n'est une amélioration. Et finalement, on est sur la même pente, c'est-à-dire que on voit à la rentrée une rentrée se profiler avec beaucoup de moyens en baisse.
Alors c'est beaucoup, ça représente quoi ?
Alors ça dépend des établissements, mais par exemple, on va dire pour être un peu clair, on a nous des effectifs à 30 élèves par classe maximum dans un lycée en éducation prioritaire, un peu moins dans les collèges, et on va être obligé de dépasser cet effectif, de ces effectifs par classe. Ou alors, on va perdre tout ce qui est dédoublement, c'est-à-dire tout ce qu'on apporte aux élèves en groupe plus restreint. Donc on va se retrouver dans un truc beaucoup plus systématique, beaucoup plus proche de cours magistraux faits devant des élèves comme s'ils étaient capables de se concentrer pendant une heure sans difficulté, sans problème, sans aide. Et donc ça change quand même considérablement les choses. Et surtout, on était déjà sur le fil du rasoir, quoi. Et donc c'est un peu ce qu'a mobilisé les collègues, c'est-à-dire qu'ils se sentaient déjà en difficulté cette année. Et donc, c'était vraiment le coup de bambou d'apprendre qu'on allait aller vers encore plus de difficultés.
Pour parler concrètement, les moyens se mesurent en termes de nombre d'heures par élève. C'est-à-dire que notre administration nous alloue un certain nombre d'heures d'enseignement par semaine. On appelle ça la dotation horaire globale. Donc vous entendrez ce mot revenir pendant notre discussion. Donc, dotation horaire globale, la DAG, c'est vraiment ce pour quoi on se bat depuis le mois de janvier. Et ces heures d'enseignement par semaine sont un indicatif en fait des moyens qui nous sont alloués. Et ils doivent être amenés au nombre d'élèves pour avoir une idée finalement de ce que l'éducation nationale investit par élève par semaine. Donc en ce qui nous concerne, on était à 1,69 heures par élève il y a deux ans. En 2007, et là on passe à 1,48. Donc c'est une très forte diminution, comme vous pouvez le constater.
Oui, alors si je peux rajouter un élément, c'est que sur la même période, c'est-à-dire qu'entre 2006 et aujourd'hui, on a constaté, grâce aux chiffres du rectorat, que la population défavorisée de notre établissement est passée de 37% à 45%. Donc en fait, on est dans une situation qui est totalement paradoxale, où en même temps que les difficultés s'aggravent sur l'établissement, parce qu'on accueille un public plus en difficulté, on se retrouve à une situation où les moyens sont chaque année inférieurs. Et donc là, les collègues, après des années et des années de réduction progressive, je pense qu'on est d'accord pour dire que les collègues sont à bout, ils sont très en colère par rapport à justement la situation dont on traite l'éducation prioritaire, en tout cas chez nous, quoi.
Donc là, on voit un petit peu les conséquences qu'il va y avoir effectivement de cette réduction des moyens. Mais à votre avis, pourquoi ce gouvernement et cette administration est complètement sourde? Et pourquoi aujourd'hui on a ce gouvernement qui réduit encore les moyens dans l'éducation nationale? On a l'impression qu'il se tire une balle dans le pied. C'est un petit peu, on disait, effectivement, les profs, les instituteurs, c'est un petit peu la masse électorale un petit peu de ce gouvernement. Et là, effectivement, bah là, on est en train de mettre en colère un petit peu cette base électorale. Alors, ça paraît un petit peu paradoxal.
Bah, je pense que voilà, on est dans un pays, et puis plus généralement en Europe, sur une ligne politique très claire. On s'aperçoit que, quels que soient les gouvernements, bah, finalement, la politique qui est menée doit être la même, parce qu'on a fixé, soi-disant en haut lieu, au niveau européen, des normes très claires. Je pense que l'une des choses qui a mis aussi bien les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves soutiennent beaucoup ce mouvement, notamment dans notre établissement, aussi bien les parents d'élèves que les enseignants en colère, c'est qu'on voit bien que parallèlement à ça, il y a des annonces de soutien et de dépenses extrêmement importantes pour le patronat, et que donc il y a quand même un choix très clair qui est fait, d'une part de réduire les moyens des services publics, et puis comme on le dit, de réduire la dépense publique, comme on aime le dire sur la politique, au niveau des politiques des pays européens, mais que par ailleurs on est capable de donner des sommes astronomiques, donc soi-disant pour que les entreprises puissent fonctionner. Donc je pense que c'est quand même un problème important. Alors chacun a des visions politiques un peu différentes, hein. Tout le monde, c'est pas monolithique parmi les collègues, ce genre d'appréciation. Mais je pense que plus ça va, et plus il paraît clair que, quel que soit le gouvernement, il y a une grande désillusion parmi les collègues quand même par rapport à ce gouvernement, quel que soit le gouvernement, la politique qui est menée va vers une casse des services publics et au profit de la classe dominante.
Oui, on peut aussi penser que ce gouvernement est là aussi pour faire avaler à sa propre base sociale des mesures que le gouvernement précédent aurait eu du mal à prendre sans réaction sérieuse et généralisée. Bon, on l'a vu avec les retraites, mais bon, passons. On ne va pas refaire la discussion sur ces questions-là. Mais en revanche, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en termes de réaction? Parce que les choses dont vous avez parlé, c'était des mesures qui s'accumulaient. Ça ne faisait pas hier ou avant-hier que vous les avez subies.
En fait, toutes les années, il y a une période où il y a quelque chose qui se joue. C'est au moment où tombe la fameuse DAG dont parlait Pierre tout à l'heure.
Et c'est quoi la DAG ?
La DAG, donc la dotation horaire globale, c'est-à-dire les moyens qui nous sont alloués, les moyens hebdomadaires qui nous sont alloués pour fonctionner. Donc, en réalité, au moment où cette DAG tombe toutes les années, il y a des possibilités de réaction. Et là, cette année, je crois que sur l'établissement, et ça n'a pas été que dans notre établissement, hein, globalement dans le 92, et surtout dans le nord du 92, les déclarations, enfin, le fait que cette DAG tombe et soit en baisse très forte cette année, a conduit très rapidement les collègues qui avaient l'habitude, justement, parce que toutes les années, on parle de ça, parce que sur l'établissement, on a quand même une culture de, on a quand même globalement une culture de la lutte. Je pense qu'on peut le dire. C'est un établissement qui est plus mobilisé que d'autres, et on a aussi l'habitude de traiter ces questions-là. Et le fait de voir qu'on perdait l'équivalent, grosso modo, hein, de 6 postes d'enseignants sur l'établissement, ça a été assez clair pour les collègues et ça a facilité en tout cas la mobilisation au niveau de l'établissement. Et c'est à peu près ce qui s'est passé dans les autres établissements.
Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur, effectivement, toujours sur l'histoire des moyens, à creuser un petit peu là-dessus. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, je ne suis pas complètement satisfait en disant, effectivement, simplement, on retire des moyens de l'éducation nationale pour les remettre au patronat. Je voudrais savoir un petit peu déjà si le budget de l'éducation nationale il est en régression ou pas. Mais je me pose la question de savoir si il n'y a pas une transformation de l'éducation nationale elle-même. Est-ce que, bon, on suggérait un petit peu tout à l'heure, effectivement, on revient un petit peu quelque part aux cours magistraux, alors qu'effectivement, on abandonne de plus en plus le travail en groupe, un petit peu la pédagogie qu'ont mis en place un petit peu les instituteurs, les professeurs, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution de l'éducation elle-même vers, effectivement, moins en moins d'humains à travailler avec les élèves et mettre de plus en plus, par exemple, on entend parler de plus en plus, effectivement, les moyens des technologies, de l'information, les ordinateurs, etc., et de transformer, finalement, le boulot de l'éducation, de l'éducateur lui-même et du professeur lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une transformation dans des évolutions aujourd'hui de l'éducation nationale ? Que ce n'est pas uniquement un problème de moyens, mais c'est aussi une on transforme un petit peu les priorités dans l'éducation elle-même.
Alors c'est là où c'est assez paradoxal, c'est que finalement, dans nos prérogatives, dans ce qui nous est demandé, on nous demande un accompagnement de plus en plus précis, de plus en plus pointu des élèves. Par exemple, on est passé au collège de plus en plus à un mode d'évaluation par compétences, par exemple, ce qui, en gros, ça nécessite d'avoir une idée précise de ce qu'est ou non capable de faire l'élève au collège. Au lycée, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a des cours qu'on pourrait appeler par module, par demi-groupe. On a tout un tas d'options. On va avoir dans notre lycée, par exemple, des options arts plastiques. Bref, les élèves ont de plus en plus, disons, le message qui est très politique, hein, ne nous voilons pas la face, c'est de dire aujourd'hui l'élève doit être au cœur de son projet, etc., etc. Donc vraiment, ce sont des intentions assez louables. Dans le même temps, et c'est là où ça nous met vraiment en colère, on a une réduction de nos moyens. Donc pour mener à bien cette mission, eh bien on a de moins en moins de ressources à notre disposition. Et c'est là où le bât blesse.
Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à la question que tu posais, Christian, c'est aussi qu'on est dans un secteur qui vit aussi, lui aussi, une forme de privatisation. Alors cette privatisation, c'est pas le fait qu'on va mettre l'éducation nationale en bourse demain, mais c'est par contre le fait que le secteur public d'éducation, on l'appauvrit, donc on le rend évidemment beaucoup moins efficace progressivement, et qu'à côté de ça, y a des écoles privées qui pullulent, qui engraissent. Donc ça peut être des cours du type Academia, cours particuliers, des choses comme ça. Mais c'est aussi des établissements privés, puisque la loi a fait en sorte que l'État subventionne ces établissements, qu'il paye les salaires des enseignants. Nous, par exemple, on a donc une cité scolaire sur Colombes, donc la ville où nous on travaille, qui est très importante et qui est pleine à ras-bord, pleine à craquer. Hein. Et il y a un lycée Jean-Paul II qui a ouvert ses portes il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, à Sartrouville, donc pas très loin de chez nous. Et comme ça ne suffit pas, il y a une cité scolaire privée qui est en cours de construction sur la ville d'Argenteuil, qui est prévue sur la ville d'Argenteuil. Donc on voit très bien que là, le terrain, le champ, comme c'est dit dans les fiches de l'OCDE, l'éducation, ça devient un secteur marchand. On va faire de l'argent avec l'éducation. Et donc, le meilleur moyen de vendre ce qu'on a à offrir, c'est de dégrader ce qui est offert par le service public. C'est un très bon moyen de vendre aux parents qui en ont un peu les moyens, ou voire à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais qui vont se saigner pour payer l'éducation de leurs gamins. C'est un des moyens qui est utilisé aujourd'hui pour promouvoir le secteur privé dans l'éducation.
Pour prendre un exemple concret sur ce que vient de dire Yannick, on a dans notre lycée une préparation au concours d'infirmière qui s'adresse à des élèves post-bac et qui est menacée par cette fameuse réduction de notre DAG. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que nos élèves, donc majoritairement des filles hein, de filière ST2S, qui souhaitaient préparer le concours d'infirmière, avaient les moyens dans notre lycée de s'inscrire à cette année de transition, donc des moyens de se mettre à jour et de se mettre à niveau pour le concours, qui vont leur être tout simplement supprimés l'an prochain, si on continue évidemment dans cette voie, ce que nous ne souhaitons pas et ce pourquoi nous n'allons rien lâcher.
Bon, on peut se faire une petite pause. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est Vive la Sociale. Là, on avait commencé à discuter encore de la situation qui est faite aux élèves. Yannick, est-ce que tu veux reprendre ce qu'on disait en antenne ?
Pour revenir un petit peu sur les conséquences, parce qu'elles sont quand même très importantes pour les élèves, je pense que ce qu'il faut, bien dire, c'est qu'effectivement, il y a des effectifs plus lourds et une suppression des demi-classes et des modules où les élèves sont en effectif réduit et ça joue sur leur chance de réussite, ça c'est certain. Mais il y a des conséquences très graves aussi sur leur droit à une deuxième chance. Dans ce qui est prévu depuis ces dernières années et qui se renforce encore pour la rentrée prochaine, c'est un nombre de places très très réduit en terminale pour les élèves qui n'auront pas eu le bac. Ce qui veut dire, et c'est déjà le cas à la rentrée chez nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les collègues sont en colère, ce qui veut dire que les élèves qui se présenteront en demandant une place de redoublement parce qu'ils n'ont pas pu avoir le bac au mois de juin, on va leur dire qu'il n'y a pas de place. Et ils devront se débrouiller à aller voir l'inspection académique, donc à faire tout un tas de démarches administratives, à essayer de le repasser en candidat libre. Et on sait très bien que dans les quartiers populaires, ça a des conséquences catastrophiques, parce que ces jeunes ne repasseront pas le bac, et pour une majorité d'entre eux. Donc, et l'administration le sait très bien. Ça veut dire qu'il y a quand même un mépris là-dessus de nos élèves, dont on se moque totalement, on se moque totalement de leur réussite. On peut rapprocher de toute façon ce phénomène de la réforme du bac professionnel qu'il y a eu il y a quelques années, où on a supprimé ce qu'on appelait le BEP, c'est-à-dire la formation bac plus 2, pour la remplacer par un bac pro 3 ans. Hein, donc, pour rappeler rapidement, dans l'enseignement professionnel, on pouvait passer un BEP en 2 ans, et puis ensuite passer, si ça marchait bien, un bac pro en faisant 2 ans de formation supplémentaire, donc 4 au total. On a éliminé le BEP, et puis on est passé à une formule unique de bac pro en 3 ans, donc l'équivalent des bacs généraux et technologiques. Le résultat, il est simple, c'est que des élèves qui passaient le bac pro avant en 4 ans et qui doivent maintenant le passer en 3 ans, ça veut dire évidemment qu'il y a des élèves qui ne suivent pas. Hein, les élèves qui sortent du collège avec le plus de difficultés, ils ne suivent pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils démissionnent, ils abandonnent leur scolarité au bout de quelques mois, au bout d'un an, etc. Donc ça, on sait très bien. Et ceux qui font ces réformes savent très bien quelles sont les conséquences. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des élèves en moins dans le système scolaire, ça veut dire des économies à court terme pour l'éducation nationale. Alors évidemment, ce n'est pas des économies à long terme, parce qu'on sait que ces jeunes-là, leurs difficultés sociales vont se transformer en délinquance, en problèmes sociaux, qui vont avoir un coût pour la société. Hein. Mais à court terme, on aura fait des économies sur les dépenses publiques, puisque aujourd'hui, on chiffre ce que vaut un élève, et dans l'enseignement professionnel, il vaut cher, puisque dans un atelier, ils sont peu nombreux. Et puis donc, il y a un prof pour peu d'élèves avec du matériel. Donc si on ferme des sections, si on ferme des années, si on empêche des redoublements, on fait des économies. Et donc, on est dans une gestion purement comptable aujourd'hui de l'éducation.
Bon, est-ce qu'on revient sur le mouvement, mais alors maintenant, un petit peu, dans l'état du mouvement aujourd'hui, comment il a démarré, et puis qu'est-ce qui se passe un petit peu aujourd'hui donc,
Alors, le mouvement, il est parti dans le 92 à l'origine de l'éducation prioritaire. Parce que les établissements de l'éducation prioritaire, en partie les collèges, pour avoir un chiffre sur 31 collèges en éducation prioritaire, 27 voyaient leurs moyens amputés. Et à cela s'ajoutait un certain nombre de lycées, hein, dont le lycée Guy de Maupassant et le lycée Galilée. Donc le mouvement qui est lié donc à la réduction des moyens part de l'éducation prioritaire mi-janvier et progressivement se diffuse à des établissements qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire, parce qu'on se rend compte progressivement que globalement sur le département des Hauts-de-Seine, l'enveloppe horaire qui a été allouée à ce département, enfin l'enveloppe de moyens qui a été allouée à ce département, est largement insuffisante. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'on n'est pas le seul département dans lequel ça se passe de cette manière-là, puisque le 93, qui a reçu, lui, ses dotations un petit peu plus tard, arrive au même constat, et donc est en train de se mobiliser progressivement là. Il est rentré dans le mouvement juste avant les vacances, et il est en train de progressivement se structurer. Il a, tout au long de cette semaine, il s'est structuré. Et on sait aussi que dans d'autres départements, notamment dans le sud de la France, il y a des mobilisations qui sont en train de se mettre en œuvre, à se mettre en place, en tout cas, qui sont prévues pour la rentrée. Voilà.
Concrètement, le mouvement a très vite impliqué toutes les personnes concernées par la réforme, donc aussi bien les enseignants que les parents d'élèves et bien sûr les élèves eux-mêmes. Et ça a été très net, hein, le message a été très clair, tout le monde a très bien compris ce qui était en jeu ici. Hein. Ce qui est en jeu ici, c'est pas le salaire des profs, c'est pas notre confort, c'est pas d'avoir un mini-bar en salle des profs, ni une nouvelle machine à café. Ce qui est en jeu, c'est bien la réussite des élèves. Hein. Et c'est ce point-là particulièrement qui est menacé. Donc comme l'a mentionné Yannick, il y a tout un tas de mesures spécifiques d'accompagnement qui sont liées à l'éducation prioritaire et sur lesquelles, paradoxalement, notre ministre a réaffirmé sa volonté, qui sont mis en cause, qui sont menacés. Et donc les parents se sont très vite joués en mouvement. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord une grève des enseignants. Et puis très vite, les parents se sont joints à cette grève. On avait à ce moment-là peur que les élèves s'en mêlent de manière un petit peu... à leur manière, qui est pas toujours à droite, pas toujours habile, mais heureusement donc les parents ont très vite pris le relais. Et
tu peux donner des dates? Ça a commencé quand?
Alors j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Hein, le 17 janvier, voilà. Donc 17 janvier, ça a commencé, et puis dès la semaine suivante, les parents ont fait blocus. Et ce qui a été hyper agréable et pour nous et qui nous a vraiment vraiment réchauffé le cœur, c'est que les parents se sont rendus compte que pour nous la grève c'était un combat et que ça nous coûtait. Et en assemblée générale donc de professeurs et de parents, les parents ont dit mais il n'y a pas de raison que vous payiez pour ce combat qui est aussi notre combat. Donc nous on va bloquer le lycée pour effectivement avoir ce mouvement de grève, donc cette perturbation du fonctionnement, mais qui ne soit pas imputée sur vos salaires. Donc ça a été la deuxième semaine. Et puis toujours cette deuxième semaine, en parallèle des actions syndicales classiques, il y a une action un peu folle qui s'est montée, qui s'appelait Prof en slip, et qui est partie d'un constat très simple, c'est qu'on allait se retrouver en slip l'année prochaine. Et donc en l'occurrence, à une assemblée générale de grévistes des Hauts-de-Seine, j'ai pris la parole et j'ai dit, bah voilà, ce que je vous propose comme mode d'action, c'est un happening, et qu'on se retrouve tous en slip devant le ministère. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la population des enseignants. C'est une population qui tient à son image. Et pour cause, son image, tous les jours, elle est mise sur la place publique, étant donné qu'on se retrouve face à des élèves. Donc, au départ, les collègues n'étaient pas forcément très chauds pour se mettre tous en slip. Mais en tout cas,
En janvier.
C'est assez dommage parce que moi, j'ai des collègues que j'aimerais bien voir en slip. Hein, s'ils nous écoutent, bonjour. Mais en tout cas, au niveau de l'Assemblée Générale départementale, enfin du moins de Nanterre, ça n'a pas pris immédiatement. En revanche, le lendemain, j'en ai reparlé en salle des profs. Et là, immédiatement, tout le monde était partant pour faire ce happening prof en slip. Alors, bon, au final, je me suis retrouvé tout seul en slip, hein, faut bien le dire. Mais on a réussi à monter hyper vite un petit spectacle, une pièce de théâtre, où l'idée, c'était d'illustrer ce que pouvait être le manque de moyens en tirant au maximum la précarité vers l'absurde, vers quelque chose de drôle. Donc, si vous allez sur les sites internet de broadcasting de vidéos, vous verrez, vous tapez prof en slip ou happening à Saint-Lazare, vous allez tomber sur les vidéos. Et ça nous a permis d'avoir une couverture médiatique assez intéressante. Et puis surtout, ça a permis de mobiliser beaucoup de collègues, dont moi-même d'ailleurs, qui ne sont pas forcément syndiqués, autour d'un projet amusant. Ça nous a beaucoup fait rire de faire ça. On a répété en quatrième vitesse, à droite, à gauche. Bref, c'était vraiment l'effervescence. Et ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que la semaine suivante, donc début février, le 3 février, on a fait deux happenings, un devant le ministère et puis un place Saint-Lazare, où on avait convié les médias. Et on a effectivement recréé cette scène de classe en plein air, avec des cartons à la place des bureaux, donc l'enseignant qui se trouvait en slip, qui était obligé de troquer ses fringues contre du matériel scolaire, bref, il y avait tout un tas de gags. Je vous laisse aller voir les vidéos si ça vous intéresse. La suite de la mobilisation, ça a été toujours cette implication des parents, et puis surtout une mobilisation au niveau départemental. Les parents du lycée Maupassant ont été impliqués, mais bien sûr aussi les parents des autres établissements de Colombes. Donc il y a eu également des manifestations au niveau de la ville de Colombes, avec distribution de tracts. Il y a eu vraiment une grosse mobilisation locale sur les Hauts-de-Seine, qui a impliqué à peu près tout le monde. Et puis également, une autre manière de toucher les médias, et plutôt de toucher notre administration, ça a été d'écrire à nos élus. Donc ça a été un autre pendant de la manifestation, disons de notre mobilisation, ça a été d'interpeller directement nos élus par des lettres. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Yannick.
Non. Et tu faisais allusion aux élèves aussi qui participaient. Tu peux en dire un mot? Ils ont sous quelle forme?
Alors les élèves ont manifesté, en fait. Ils ont pris part aux manifestations qui a eu le 3 février, si je ne m'abuse. Donc ça a été devant le ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr, ils en ont profité pour venir voir leurs profs en slip. Et ça s'est très bien passé. C'était une ambiance plutôt bon enfant. Les élèves, globalement, nous ont vraiment soutenus là-dessus, et il y a eu des petites préoccupations de la part d'élèves de terminale, parce que bien sûr il y a les chances du bac, mais ça évidemment on est prof avant tout, donc on a trouvé des moyens avec eux de maintenir le mouvement tout en restant mobilisés pour la réussite au bac. Mais les élèves nous ont vraiment complètement soutenus dans cette lutte.
Oui, alors je crois que ce qu'on peut dire quand même qui est un peu particulier à ce mouvement et qui explique au moins en partie sa réussite, c'est que la réactivité a été très forte, parce qu'il y a depuis quelques années, notamment dans le nord du département, des réseaux par ville qui ont été montés par des militants syndicaux la plupart du temps, mais auxquels participent des enseignants syndiqués dans différentes organisations non syndiquées, des parents d'élèves, etc. Ce qui fait que quand il se passe quelque chose dans un des établissements d'une de nos villes, très vite les autres sont au courant, et ça permet une réactivité beaucoup plus forte. Le deuxième élément, c'est que lorsque les organisations syndicales qui siègent au comité où on explique un petit peu la répartition de tous ces moyens, il y a une réaction unanime des six organisations et qui tout de suite ont fait part de leurs informations sans la rétention qu'il peut y avoir des fois de peur de d'être débordé du fait de la concurrence syndicale, etc. Cette fois-ci, chez nous, il y a une intersyndicale qui fonctionne bien et qui a permis d'évacuer, on va dire, tous les problèmes que peuvent créer le sectarisme et la méfiance les uns envers les autres. Et que finalement se sont montées très vite deux assemblées générales. Donc je me suis trompé de date tout à l'heure, c'est pas le 17, c'est la semaine du 20 janvier. Et donc dès le jeudi 23 janvier, il y avait deux assemblées générales. Une à l'initiative des collègues de Villeneuve, les premiers mobilisés dans deux collèges, qui a eu lieu finalement à Nanterre, ils ont tenté de faire une assemblée générale départementale. Et voilà, dans la précipitation, comme on n'avait pas eu de salle suffisante, il y en a eu une autre sur Colombes. Et donc ces deux assemblées générales ont très vite rassemblé une centaine de personnes. Il y avait déjà à peu près 200 personnes en assemblée générale. Et ce qui est assez exceptionnel pour avoir vécu quelques mouvements sociaux quand même, c'est que à la fois l'intersyndicale et à la fois ces assemblées générales ont réussi à travailler de concert. Et voilà. Et quand on connaît un peu le mouvement social, on sait que c'est pas évident. Hein. Donc, dans notre intersyndicale, il y a la CGT Éducation, Sud Éducation, il y a aussi la FSU, il y a aussi la CFDT, l'UNSA et Force Ouvrière. Donc, des organisations, un certain nombre de ces organisations ne sont pas toujours habituées à accepter, on va dire, les décisions prises en assemblée générale. Là, cette fois-ci, on a réussi à trouver. C'est pas toujours facile, mais on a réussi à trouver un mode de fonctionnement qui permettait et à la représentation syndicale d'une part et à la représentation des assemblées générales d'autre part de fonctionner ensemble. Et je pense que ça a permis, c'est un des éléments vraiment très importants qui a évité qu'il y ait les uns qui proposent, comme on le connaît dans certains secteurs et sur certaines listes, un rassemblement et une grève tel jour, les autres qui proposent un autre mode d'action, et puis les uns et les autres qui se déchirent avant même que le mouvement ait réellement pris de l'ampleur. Donc cette fois-ci, ça n'a pas existé. Donc malgré des désaccords, et notamment, je pense que Pierre-Alexandre a expliqué un peu l'action qui a été proposée autour de cette pièce de théâtre-là. Évidemment, pour des syndicalistes habitués aux mouvements sociaux à travers des manifs, etc., ça semble un petit peu bizarre, et ils ne l'ont pas accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mais finalement, d'une part, ils l'ont laissé faire, et puis c'est quelque chose qui a été très complémentaire. Donc finalement, l'intervention de ces modes d'action un peu différents dans le cadre de la grève, parce qu'à mon avis, ça ne peut pas se faire comme alternative à la grève, mais dans le cadre de la grève, ces modes d'action dans le cadre de la grève, associés évidemment aux manifestations, aux délégations, aux ministères, etc., c'est des choses qui ont été très porteuses. Et puis ce qui a été très complémentaire aussi, c'est l'action des parents d'élèves, parce qu'évidemment, on sait que les parents d'élèves, notamment quand ils sont à nos côtés, vis-à-vis de nos élus, ils ont un poids et en tant qu'électeur qui n'est pas anodin, et on a quand même débouché avant les vacances de février à une requête faite par l'ensemble des parlementaires des Hauts-de-Seine vis-à-vis du ministre pour lui demander une audience et essayer de débloquer la situation. Donc je pense que la période électorale n'est peut-être pas tout à fait étrangère, hein, on n'est pas dupe de la situation, mais voilà, pour nous ce qui compte c'est le résultat c'est que les élus se sont mobilisés voyant quand même que il y avait beaucoup de gens qui se sentaient concernés et qui marchaient dans la même direction sur cette histoire.
Et donc, concrètement, à ce moment, vous avez l'impression d'en être où ?
Je pense que ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que nous, comme on le disait tout à l'heure, on est sur une phase de remobilisation. On avait espoir, notamment à travers la requête de ces élus, qu'il y ait un déblocage de la situation. Évidemment, comme toujours, ils ont cherché la division. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la plupart des collèges ont retrouvé les moyens qui étaient ceux de l'an dernier à minima. C'est-à-dire,
donc il y a déjà des premiers résultats.
Il y a déjà des premiers résultats. Donc la plupart des collèges ont été satisfaits. Ce qui a été fort aussi dans ce mouvement, c'est que finalement ils ont lâché assez vite sur les collèges. Et malgré tout, les collègues des collèges sont restés en grève. Parce que pour une fois, ils n'étaient pas dupes, mais je pense qu'ils le sont pas forcément d'habitude, mais ils n'étaient pas dupes que si cette année c'était les lycées qui se faisaient étrangler, c'est eux qui passeraient à la moulinette l'année d'après. Et puis, il y a ce souci de l'éducation prioritaire d'une manière générale. Et puis, il faut dire qu'à la contradiction qu'il y avait entre les discours ministériels, présidentiels et la réalité, il faut ajouter aussi la façon dont on nous a répondu. Hein, on est allé quand même, il y a eu deux manifestations à une semaine d'intervalle au ministère. La première, bah, comme d'habitude, on nous a reçus et on nous a dit « on vous écoute, on vous entend, on vous répondra ». Une semaine après, on y est retourné, on nous a dit « on vous écoute, on vous répondra ». Donc là, quand même, pour les gens qui ne sont pas habitués, nous, on y est habitués, ça nous plaît pas. Mais on sait que si on n'a pas un rapport de force important, on ne gagne pas. Hein, c'est pas nos arguments et notre bonne foi qui fait plier le ministère. Mais pour les collègues qui, eux, sont pleins d'illusions et qui pensent qu'on vit dans un pays démocratique avec des valeurs sociales, c'est quand même une douche froide, quoi. Ils se mobilisent, ils sont en grève depuis longtemps, ils font pas cours, ils perdent du salaire. Et face à ça, on les traite avec mépris, c'est clair. Donc ça renforce la colère. Et je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui sont intervenus et qui ont voulu durcir le mouvement, je pense. Du fait de ce type de réponse, quoi, de ce type de mépris.
On peut dire encore un mot sur les perspectives ?
Oui, alors, les perspectives, c'est que la semaine prochaine, normalement, on devrait décider d'une date au niveau de l'Île-de-France. Donc, il y en a une qui avait été posée avant les vacances le 13 février, qui avait été un gros succès, hein, une manifestation très importante au ministère. Visiblement, ça ne suffit pas au ministre pour revoir la situation. Donc, la Seine-Saint-Denis, qui était assez peu mobilisée, enfin, qui s'est mobilisée plus tardivement, elle s'organise, on va dire, cette semaine. En province, il y a des mouvements qui commencent à poindre, comme dans les Bouches-du-Rhône. Et dans des établissements comme le nôtre, où on a suspendu le mouvement de grève cette semaine pour cause de bac blanc, bon, c'est une question qui a été débattue, mais c'est finalement la décision qui l'avait emportée. Pour nous, la semaine prochaine, on y retourne, quoi, parce qu'il n'est pas question de lâcher, vu les réponses qu'on nous a faites.
La petite question, est-ce que les enseignants s'associent aux actions interprofessionnelles qui sont prévues le 18 mars ?
Très franchement, on en a rapidement parlé, nous, en Assemblée Générale, dans notre établissement. Mais finalement, pour nous, le 18 mars, c'est loin, vu notre actualité. Finalement, c'est un ensemble. Notre combat fait partie d'un ensemble. Hein, mais donc, pour le moment, on est sur des revendications. Il y a une plateforme de revendications qui a été établie. Donc, on est sur cette bagarre-là. Peut-être que le 18 sera... donc un moment dont on saisira, puisque finalement ce dont il est question le 18 mars, c'est pas tellement différent de notre problème. Donc je pense que c'est certainement un moment dont on saisira pour amplifier la mobilisation dans notre secteur, si jamais on n'a pas eu de réponse satisfaisante jusque-là. Si on obtenait une réponse satisfaisante, je garantis pas que les collègues resteraient très mobilisés après un temps de grève et après une obtention sur ces revendications. Je veux dire, on laisserait le relais à d'autres, mais par contre, si on n'obtient pas satisfaction, je pense que les collègues auront à cœur de faire en sorte que cette journée soit justement un moment fort dans notre mobilisation.
Une question qui vient spontanée, et à partir des constats que vous avez faits sur le département, mais vous n'avez pas l'impression que ces problèmes étant d'ordre plus général, qui dépasse les frontières du département, il n'y a pas une mobilisation nationale qui se prépare, qui pourrait se faire sur les mêmes questions ?
Pour l'instant, notre action est, du moins en ce qui concerne la mobilisation sur lycée, elle a des causes très concrètes. Hein. C'est vraiment... on n'a pas du tout pensé à élargir, et d'ailleurs, nos revendications sont hyper précises, hyper concrètes. Elles portent sur la DAG. Et je pense que la plupart des collègues se battent pour ce problème très précis. Il ne s'agit pas pour nous d'en faire une lutte au niveau national. Ceci dit, je peux pas parler au nom de tous les collègues, et j'imagine que... du moins pour ce qui est des collègues syndiqués, il y a certainement des ponts ou des liens à faire, mais je préfère les laisser parler sur ce sujet.
Bah, en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que L'éducation nationale est divisée en académies et les académies sont divisées en départements. Et tous les départements de toutes les académies ne sont pas touchés pareillement par cette pénurie de moyens. Et l'arbitrage qui a été fait par les différents responsables hiérarchiques de l'éducation nationale n'est pas les mêmes dans tous les départements. À l'origine, si c'est parti si tôt et si vite dans le 92, c'est parce que, notamment au niveau du département, il y a des choix politiques qui ont été faits par... ce qu'on appelle le directeur académique, qui est le chef du département, grosso modo, responsable hiérarchique au niveau du département, qui était clairement en défaveur de l'éducation prioritaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais tous les départements ne sont pas touchés de la même manière, et donc nécessairement, et puis tous les départements ne reçoivent pas leurs informations au même moment. C'est ce qui fait que la lutte se coordonne un petit peu difficilement, et c'est ce qui fait que tous les départements ne sont pas partis comme ça, comme un seul homme. Et c'est une stratégie qui est assez classique, hein. On va pas assécher tous les départements en même temps, toutes les académies en même temps. D'abord, on assèche tel département, puis un autre, etc. Enfin, c'est la stratégie de la division. Et c'est comme ça qu'en général, ils arrivent à essayer de nous diviser. Et l'objectif, c'est justement de faire en sorte de faire comprendre aux collègues des autres départements qui, même s'ils sont moins touchés, seront touchés un jour ou l'autre par ce type de manœuvre. Et donc c'est pour ça qu'il serait important qu'ils rentrent aussi dans la bagarre.
Là, je crois qu'on a fait le tour de la question. On se fait une pause musicale et après, on passe à la poste. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est toujours Vive la Sociale. Maintenant, on passe à la poste avec Xavier, qui est déjà venu et qu'on connaît, mais présente-toi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
Donc, Xavier, je suis représentant départemental du syndicat Sud Activité Postale 92, et je suis en grève depuis 37 jours.
Donc voilà, on est en plein dans le cœur du problème. Déjà, depuis 37 jours, tu peux nous dire sur quoi? Et ensuite, on essaie de remonter un peu.
Sur quoi ? 37 jours, c'est long. Et du coup, il y a eu plusieurs phases au conflit. Je pense que c'est plus logique de raconter chronologiquement, en fait.
Oui, allons-y.
Le point de départ de la grève, c'était le 29 janvier dernier. C'est à Rueil-Malmaison. Il y a 87% des collègues du bureau qui sont mis en grève pour la prolongation d'un contrat précaire. C'est-à-dire que c'est une collègue qui était en contrat d'insertion. C'est un contrat précaire qui est financé par le Conseil Général, par nos impôts, quoi. On lui avait promis qu'elle serait embauchée en CDI suite à son contrat d'insertion. Et le jour même de la fin de son contrat, la direction a dit non, en fait, on ne prend pas parce que t'as pas le permis. Parce que t'as pas le permis de conduire. Et ça a complètement révolté les collègues. Ils sont tous sortis, enfin à 87%. Et de fil en aiguille, alors que ce qu'on demandait, c'était même pas qu'elle obtienne un CDI. Le préavis de grève, et ce que demandaient les collègues, c'était de lui donner un CDD jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir un permis de conduire. On a presque honte d'une telle... d'une revendication, elle est très très modeste quand même. Et la direction a absolument refusé de discuter de ça. Elle refusait même de nous rencontrer. Avec 87% d'un bureau en grève. Bon. Et assez rapidement, de fil en aiguille, au bout de 2-3 jours de grève, on s'est retrouvé avec des anciens précaires qui avaient été virés de la même manière, qui avaient été licenciés de manière masquée, quoi. On n'avait pas renouvelé leur contrat. Une collègue qui avait fait 30 mois de CDD, et pareil, on lui avait dit « Ah, t'as pas le permis, donc on te renouvelle pas le CDD. » Pendant 30 mois, ça n'avait pas gêné hein, qu'elle ait pas le permis, mais là, on lui a dit « Non, on te reprend pas. » Un collègue qui avait été en contrat de professionnalisation, et voilà, pareil, bon, je raconte pas forcément le détail, et un quatrième collègue qui était dans une situation similaire. Et donc, les collègues ont commencé à demander l'embauche de ces quatre contrat précaire là et l'embauche de l'ensemble des précaires parce qu'il y a à peu près 20% aujourd'hui des facteurs qui sont dans tous ces qui travaillent avec tout ce type de contrat. Et ce qui est un petit peu exceptionnel, c'est qu'au bout de 3 jours de grève, on a eu la participation active de ces 4 collègues dans la grève qui participaient aux AG, aux actions, qui votaient dans les assemblées générales parce que chaque jour on regroupe l'ensemble des grévistes, on vote la reconduction de la grève ou non. Et donc c'est un mouvement, ça a été un mouvement dès le départ commun entre des salariés embauchés et des précaires, même des chômeurs. Ça c'est très très, même nous ça nous a étonnés. Hein. Et donc ça c'était la première phase de la bagarre. Et dans cette phase-là, on s'est rendu compte de l'ampleur, même nous on sous-estimait ça, hein, les militants, l'ampleur du scandale de ces contrats aidés. Ces contrats aidés, qu'est-ce que c'est ? Je prends l'exemple des contrats d'insertion. Un contrat d'insertion, c'est le conseil général qui paye l'ensemble du salaire brut. C'est la moitié du salaire quand même, hein. Mais non seulement c'est payé, y a le salaire brut qui est payé, mais il y a 45% du salaire net qui est payé également par le conseil général. Ça, c'est pour le cas de La Poste. Pour le cas d'autres entreprises, les partenariats entre le conseil général et, par exemple, Carrefour ou d'autres boîtes comme ça, ça va jusqu'à 80% du salaire net. Bon, donc c'est du travail, pas gratuit, mais presque. Le coût d'un salarié de base, on va dire, à l'année, c'est 30 000 euros. Nous, on estime, au bas mot, c'est 20 000 euros par an et par contrat aidé qui est économisé par la boîte. Et c'est marrant parce que dans le cours de la grève, il y a eu... l'annonce lors du dernier conseil d'administration de La Poste. D'ailleurs, ce jour-là, on a envahi les grévistes du 92, on a envahi le siège national, si vous voulez, on pourra en parler. Bon, mais ce qu'ils ont annoncé, c'est un peu plus de 600 millions, 627 millions de bénéfices. C'est pas rien. Quasiment la moitié, ça vient de ce type de crédit d'impôt. La moitié. Et on nous dit, on est des assistés, les assistés, c'est les patrons. Sans les aides massives de l'État. Et là, je parle que des crédits d'impôt. Hein. Enfin, y a des subventions directes, il y a même les autres salariés. Moi, sur ma fiche de paye, il y a une petite ligne tout en bas avec écrit « Réduc charge bas salaire ». Pour tous ceux qui gagnent moins de 1,6 fois le SMIC, bon, y a une exonération d'une partie des cotisations sociales. Et c'est du moins 200, moins 300 euros par mois et par salarié qui gagne moins que 1,6 fois le SMIC. Bon. Aujourd'hui, le patronat est sous perfusion de ces subventions et de ces exonérations de l'État. Et donc, que fait La Poste ? Je reviens au point de départ de la grève. Périodiquement, elle vire ces contrats précaires-là, plutôt que de les embaucher, parce qu'elle dit que c'est des contrats d'insertion ou de professionnalisation, c'est fait pour insérer ou professionnaliser soi-disant. Non, ça sert juste à empocher les aides. Parce que derrière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils en virent la moitié à peu près, et ils réembauchent d'autres précaires. Et on a même une bonne partie de ces collègues-là, une partie réussit à se faire embaucher au CDI en bout de course. Ces collègues-là, ils sont passés souvent par un contrat d'insertion, puis un CDD, puis un contrat de professionnalisation. Enfin bon, des fois, c'est un an, deux ans de précarité, quoi. Comme si facteur, enfin, c'est pas pilote de ligne, quoi. Oui, c'est pas pilote de ligne. T'as pas besoin de cinq ans d'études pour faire facteur. Faut arrêter. Bon. Mais eux, tous ces contrats-là, c'est des couvertures, c'est des prétextes pour pouvoir empocher des subventions qui viennent d'où ? De nos impôts. C'est nous-mêmes qui payons une partie des salaires de nos collègues, c'est quand même assez fort.
Rappelons quand même que La Poste est devenue une société anonyme depuis 2006, hein, c'est bien ça, hein ?
Depuis 2010.
2010, excuse-moi.
Depuis 2010. Une société anonyme, mais l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. Hein. Donc c'est le gouvernement qui décide de ce qui se passe, qui décide des grandes orientations stratégiques à La Poste en réalité.
On est à deux doigts de la privatisation, on met les choses en route, mais justement, comment ça se passe concrètement ? Tu avais commencé
concrètement,
à l'expliquer.
Et c'est en lien avec la suite de la grève. Qu'est-ce qui se passe depuis 2002 ? Il y a eu 100 000 emplois supprimés à La Poste. 100 000. C'est gigantesque. C'est plus...
Sur combien ?
Il y avait entre 350 et 360 000 au début des années 2000. Et aujourd'hui, on est entre 250 000 et 260 000. Donc, c'est plus de suppression d'emplois que Peugeot et Renault réunis. Ah, c'est les plus gros, ceux qui suppriment le plus, l'entreprise qui a supprimé juste après l'État, ceux qui ont supprimé le plus d'emplois en France, c'est La Poste, c'est la privatisation. C'est moins 100 000 emplois. Bon. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je reviens à notre grève. Quand on a vu que même en demandant une prolongation d'un contrat précaire, c'était même pas moyen de discuter, eh ben, on a fait ce qu'on fait dans tous les conflits qu'on a pu connaître ces dernières années à La Poste dans le 92. On est allé voir d'autres bureaux pour les informer de pourquoi on était en grève et pour leur dire si vous avez des problèmes, c'est le moment qu'on s'y mette ensemble. C'est la méthode qu'on a systématiquement employée, c'est étendre la grève, regrouper les différents centres, parce que de toute façon, on est des toutes petites unités, quelques dizaines de salariés par-ci, par-là. Donc la seule manière de gagner, c'est de faire masse et c'est de regrouper les forces. Et là, on a eu la Garenne Colombe-Bois-Colombe qui s'est joint à la grève contre un projet de restructuration, de suppression d'emplois. On a eu Courbevoie, Gennevilliers, tout ça, c'est des centres qui sont en grève majoritaire. Et on a eu des minorités significatives d'autres bureaux, le CTED de Colombes, Asnières, bon, et quelques autres centres. Et donc, on a commencé à agglomérer des grévistes de plusieurs bureaux. en demandant, et là on est passé à une autre phase, on ne demandait plus juste la prolongation de 4 contrats, etc. On a commencé à élever les enjeux, parce que quand tu commences à faire 2-3 semaines de grève, tu ne peux pas rentrer sans rien, quoi. Tu dois gagner quelque chose. Et là, on a commencé à soulever le problème des suppressions d'emplois et des salaires. Parce qu'on gagne des salaires de misère. Aujourd'hui, après 10 ans de boulot à la poste, quand tu es facteur, tu es plus smicard après 10 ans de boîte qu'à l'arrivée. Ton salaire est plus proche du SMIC. On gagne, en moyenne, les grévistes, là, c'est 1200, 1300 euros net. Comment tu fais pour survivre avec ça en région parisienne? C'est quasiment impossible. Hein. Bon, donc on a commencé à dire, voilà, maintenant, on veut plus de ces suppressions d'emplois, on veut une augmentation des salaires. Enfin, on demande quelque chose d'assez modeste, parce que pour l'instant, la grève, elle concerne un peu plus d'une centaine de personnes et elle est à l'échelon d'un département. Donc ce qu'on demande, c'est une prime de 500 euros par an, débloquée au niveau départemental. Si la grève s'étend au-delà, on élèvera la revendication. Notre revendication de base, c'est 300 ou 400 euros d'augmentation du salaire, bien sûr. Mais là, ce qu'on demande sur cette grève-là, c'est 500 euros de prime. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et ça, les grévistes, ils s'en rendent compte parce que quasiment tous les jours, quand on va sur les centres, notre méthode, c'est très, très simple. C'est les grévistes, ils se regroupent le matin et on va dans des centres qui sont pas forcément en grève et on vient prendre la parole, expliquer, parler à nos collègues. C'est juste ça qu'on fait. On ne les empêche même pas de travailler. Et pourtant, dans un certain nombre de centres, on essaye de nous barrer la route, nous empêcher de rentrer dans les centres. Il y a des vigiles, il y a des huissiers, il y a des interventions policières de plus en plus systématiques. Bon, pour vous donner l'exemple des huissiers, un huissier, c'est 500 euros hors taxe l'heure minimum, tarif jour. Parce que quand on intervient, des fois, on intervient de nuit, hein, sur certains centres de nuit. Et là, les tarifs nuit, je ne sais même pas ce que c'est. Bon. Donc les collègues, ils voient ça. Ils voient, mais on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Le discours pour justifier les restructurations, les suppressions d'emplois, ces fameuses 100 000 suppressions d'emplois, c'est dire « Ah là là, le trafic baisse, il y a de moins en moins de courriers, c'est la catastrophe. Si on ne restructure pas, si on n'ajuste pas la masse salariale, on va couler. » Donc pour préserver l'emploi, pour préserver l'entreprise, il faut supprimer des emplois. Pour préserver l'emploi, il faut supprimer des emplois.
C'est le discours patronal classique.
Exactement.
Et créer des emplois d'huissiers.
Et créer, pardon ? Ah oui, alors là, les emplois d'huissiers, ça, il n'y a pas de problème. Plus il y a de grève, les huissiers, ils se portent très très bien. Donc les collègues, ils voient ça. On nous dit, il n'y a pas d'argent. On nous dit, supprimer des emplois, c'est nécessaire. Et de l'autre, on voit des vigiles, des huissiers, mais c'est des centaines de milliers d'euros. Sur le conflit de 2012, on a eu une longue grève en 2012 de 64 jours. On a eu, c'est une estimation, de notre part. On pense qu'ils ont dépensé pas loin entre 600 000 et 800 000 euros contre nous, en vigile, huissier et autres, et en heures sup. Bon. Alors que ce qu'on demandait sur cette grève-là, c'était 2 ou 3 emplois et reporter des réorganisations. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à dépenser beaucoup plus pour essayer de casser les grèves et de casser l'idée que la résistance permet de gagner quelque chose. Ils sont prêts à payer très très cher, beaucoup plus cher que ce que coûterait tout simplement la satisfaction de la revendication, pour casser la dynamique de lutte et de solidarité qui peut se créer à la faveur de ces grèves-là.
On a l'impression qu'ils sont en guerre, effectivement. Quand on est en guerre, on met les moyens pour gagner cette guerre.
Ah oui, oui, ça c'est sûr.
Bon, et là, est-ce que tu peux donner des... oui, quand tu parlais de l'extension des bureaux, est-ce qu'il y avait seulement les bureaux de poste ou aussi des centres de tri?
Alors, le point de départ de la grève... Jusqu'à cette deuxième phase, grosso modo, jusqu'à il y a quelques jours, le mouvement était essentiellement... Excusez-moi. Le mouvement touchait essentiellement des bureaux de distribution, des facteurs à vélo, etc. Et là, demain, il y a un centre de tri de colis, la plateforme colis de Gennevilliers, qui va se mettre en grève. Voilà, donc c'est un centre de tri très très important. Pour vous donner une idée, le colis, c'est 25% du chiffre d'affaires de la Poste, c'est très rentable. Et il y a 2 plateformes colis en Ile-de-France seulement. Il y a 40% du trafic colis de toute la France qui passe par l'Ile-de-France. Donc voilà, la plateforme colis de Gennevilliers, c'est 20%, du chiffre des colis au niveau national. Et ils seront en grève avec nous. On sera en grève commune avec la plateforme colis demain.
Bah, écoute, là, on va quand même reprendre un peu le souffle. On se fait une pause.
Yesterday
Et c'est Fréquence Paris Pluriel 106.3, vive la sociale. Et on discutait de la poste. Et ben voilà, on avait commencé à discuter de la mobilisation, de la suite des mobilisations. Tu peux expliquer comment ça a continué à monter?
Il y a une question qui s'est rapidement posée. C'est celle de, comment dire, c'est celle des tâches supplémentaires non payées. C'est au croisement entre la question de l'emploi, des suppressions d'emplois, et la question des salaires. Ça, vous avez peut-être entendu ça parce qu'il y a eu une campagne de presse il y a quelques semaines de La Poste qui dit « Le courrier baisse, il y a de moins en moins de courriers, de moins en moins de trafic. » C'est-à-dire, sous-entendu, les facteurs se la coulent douce et n'ont pas de taf. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, si on veut sauver l'entreprise et qu'elle ne coule pas, même si elle fait 600 millions de bénéfices, ce qu'il faut maintenant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Vous allez devoir faire les courses, ramener les courses aux gens. Vous allez devoir, il y a un truc, ça s'appelle DigiShoot. Ils nous donnent des smartphones. Au début, ils te donnent juste le smartphone. Ils disent, tiens, je te donne un smartphone, c'est cool, tu vas voir, tu as 2 heures de forfait, tout ça. Bon. Et après, ils te mettent des applications sur le smartphone, DigiShoot. DigiShoot, c'est quoi? C'est tu prends des photos des dégâts des eaux chez les gens, parce qu'ils font confiance au facteur, il est assermenté, etc., etc. Tu prends des photos des dégâts des eaux, comme les experts de chez AXA, et voilà, tu prends le marché d'AXA. Sauf que la différence entre AXA et La Poste, c'est que nous, on n'est pas payé, on est payé 0 euro pour le faire. Alors que La Poste, si elle prend ce marché-là, elle se fait, je veux dire, des millions. Bon. Donc c'est ça, c'est d'essayer de rajouter des tâches payées 0 euro, absolument pas payées. Bon. Et ça, ça paraît, la pilule a un petit peu de mal à passer. Pourquoi? Alors je vais vous lire une petite interview de Philippe Val, le nouveau PDG de La Poste. Ça, cette interview-là, c'était il y a un an, juste avant qu'il passe PDG de La Poste. Il était à l'époque à la tête de la Banque Postale, c'est-à-dire d'une des principales filiales. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, personnellement, même si mon ami Hollande, pour qui j'ai voté, donc il est de gauche cet homme-là, nous a un peu rogné les ailes, je dirais que je suis riche, favorisé et ravi de payer des impôts. L'échelle des salaires, ici, là il parle de la Banque Postale, va du SMIC dans les back-office à mon salaire, qui était de 830 000 euros brut avant que le gouvernement n'intervienne. Maintenant c'est 700 000 euros seulement. J'ai d'ailleurs le salaire le plus élevé du groupe, supérieur à celui de Jean-Paul Bailly, c'est le métier qui veut ça, mais je gagnais le double chez RBS. Je possède 5 propriétés, un immeuble à Bordeaux, où je fais de la défiscalisation suivant la loi Malraux, une belle maison en Corse, un appartement rue Madame, et puis 2 autres pour les enfants. Et là c'est le plus fort, j'ai par ailleurs 2 ou 3 millions placés. Donc on se fait la blague entre nous, parce que ça, cette extrait d'interview, on l'a lu dans tous les bureaux, on l'a dit dans toutes les AG. On plaisante entre nous, on dit nous, quand on va à la machine à café, on ne sait pas dans la poche si on a 5 ou 10 centimes, lui il sait plus, il a 2 ou 3 millions. Donc qu'on ait des gens comme ça à la tête de l'entreprise, qui n'aient pas peur de s'exprimer de cette manière-là, et nous, sans quoi il n'y a rien qui se passe. Tout le courrier, toute l'activité, ça repose sur nous, et on nous paye à peine le SMIC. Et eux se pavanent. Dans la grève, on a occupé un certain nombre de sièges sociaux de l'entreprise. Et quand tu vois, même, c'est tout bête, mais on arrive là-dedans, c'est beau, les cantines, c'est super bon. C'est le même prix que nos cantines à nous, c'est 5 euros le repas, mais tu manges super bien. Même les machines à café, elles sont tellement belles que tu les regardes, tu les admires. Bon, et c'est une débauche. Et encore, La Poste, en termes d'inégalité de revenus, enfin, je veux dire, c'est le bas du panier. Bon. Et c'est pas possible d'accumuler tellement de richesses d'un côté et tellement de précarité, de misère de l'autre, sans qu'au bout d'un moment, ça explose, quoi. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et au bout d'un moment, la colère explose. Et là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que on se fait face à un tel mur en termes de refus de négociation, même si là, j'ai pas les toutes dernières nouvelles, mais visiblement, ça commence un tout petit peu à avancer, mais j'ai pas le détail, donc je peux pas trop m'avancer. Mais ce sur quoi on compte là, après 37 jours de grève, hein, c'est pas facile, hein, 37 jours de grève, on est obligé de réfléchir à comment gagner le plus rapidement possible. Bah là, on a une possibilité peut-être d'extension dans d'autres départements et à un niveau national. Il y a une grève nationale, la même date que la prochaine date de grève que les profs, le 13 mars. Et il y a l'approche des élections municipales. Les facteurs sont censés distribuer les plis électoraux, les professions de foi, etc., etc. Traditionnellement, c'est un travail, c'est une tâche supplémentaire qui est rémunérée. Mais là, cette année, officiellement, le siège national a dit, c'est pas payé. 0 euro. Sauf si, évidemment, vous dépassez vos horaires. Ça veut dire que...
Sinon, votre patron ne pourra pas s'acheter sa 6e maison.
Voilà. Exactement. Et donc, là, ils sont quand même face à un petit dilemme. soit pour le 92, là il y a quand même pas mal, plusieurs établissements qui sont en grève, il y a une situation où la grève peut réellement s'étendre à des gros centres, bon, donc là c'est une situation quand même où il y a des dangers pour eux. S'ils ne payent pas les plis électoraux, ils risquent d'énerver plein de bureaux qui ne sont même pas touchés par des restructurations. Et donc, ils prennent le risque d'une extension du conflit dans le 92. Et s'ils payent les plis électoraux dans le 92, ça sera compté sur nous pour le dire partout. Et du coup, bah, ça pousse. On dira, bah, voilà, si vous voulez que les plis électoraux soient payés, il faut faire grève. Et du coup, ils risquent d'avoir des grèves ailleurs. On a quelques échos, dans quelques coins en France, tout du moins, où la question d'une grève reconductible, ou en tout cas qui ne dure pas seulement un jour, autour du 13, commence à se poser. Donc nous, on compte là-dessus, c'est sur l'extension au-delà des frontières du 92 du conflit. Et on a une deuxième arme, c'est d'essayer de taper fort. Hein, nous, on fait les grèves, on ne reste pas à la maison. Faire grève à la maison, ça sert juste à perdre du salaire. On essaie d'être actif. Et donc là, depuis deux semaines, on a occupé tous les sièges nationaux de la Poste. Le siège central, boulevard Vaugirard. Le siège du courrier, boulevard Brune, ça c'était hier. Le siège de la Banque Postale.
Boulevard Vaugirard, c'était 15 jours, c'est pour ça que vous n'étiez pas là.
Oui, oui, mais on l'a occupé deux fois. On l'a occupé le 13 et le 20 février. Et donc, on a occupé aussi, on est rentré dans le siège de la Banque Postale. Ils ne s'attendaient pas du tout. Ils ne savaient pas quoi faire. On dirait qu'ils n'avaient jamais vu des facteurs. Et on est rentré aujourd'hui au siège. On a réussi à aller jusqu'au bureau du numéro 1 du colis au niveau national. Pareil, ils ne s'y attendaient pas. Mais de toute façon, on est obligé de faire ça. Parce que si tu fais rien... Oui, voilà. Tu montres la photo de... On était dans le grand auditorium, effectivement.
Oui, sur Internet, on trouve des très belles photos de ces occupations.
Oui, ouais, et on a bien ri, d'ailleurs. On a bien rigolé. Ils essaient de nous faire passer... Pour des barbares qui font des dégradations, qui traumatisent les cadres, qui leur crient dessus, qui les empêchent
de
travailler.
C'est quel site
On a un blog, je pourrais redonner l'adresse, il faut que je la retrouve. Mais donc, on est obligé de faire ce type d'action, coup de poing entre guillemets, même si c'est coup de poing, c'est juste qu'on rentre à nombreux dans le siège un peu par surprise. On est obligé de faire ça parce que si on ne fait pas ça, on n'a pas de négociation. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a rien sans rien, quoi. Pour bagarrer, pour gagner quelque chose, on est obligé de faire grève très souvent, malheureusement, sur une longue durée, et de taper fort si on veut gagner quelque chose, quoi.
Alors, tu avais parlé tout à l'heure, effectivement, que demain, il va y avoir effectivement le centre de tri de Gennevilliers, c'est ça ?
La plateforme colis de Gennevilliers.
De Gennevilliers. Mais on n'avait pas terminé sur la chronologie de la grève, son extension, ses différentes phases. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu? On avait parlé des deux premières phases. Et...
Bah, la troisième phase, c'est celle-là. C'est celle de la recherche de l'extension au-delà des frontières du 92 et de mener des actions. On essaie de mener des actions chaque jour, tous les jours. Alors bon, là, on a occupé tous les sièges, donc faut qu'on se creuse la tête pour voir ce qu'on peut occuper maintenant. On est aussi allé voir Montebourg, au salon de l'agriculture. Voilà, on se donne aucune limite en termes d'action. On peut aller voir les ministres, on peut aller voir... Dans une de nos grèves en 2009, on est même rentré dans le ministère de l'économie.
Alors, on a parlé tout à l'heure, pendant la pause musicale, une question que je me posais. Moi, je suis ancien cheminot, parce que je suis en retraite maintenant. Mais donc, les grèves, on en a connu quand même un certain paquet. Je ne vais pas vous dire le nombre de mois de grève que j'ai pu faire dans ma carrière. Enfin, vous allez avoir honte. Mais question qu'on se posait, c'est de savoir, bon, même s'il y a des grèves locales qui existent à la SNCF, même s'il y a des grèves régionales, mais on arrive à faire en sorte, même si c'est peut-être de plus en plus difficile, hein, de par la politique patronale, qu'il y ait des grèves nationales. Et une question que je m'interroge toujours à la Poste, alors qu'on voit régulièrement des grèves très très dures, très longues et très très dures, mais locales, mais pourquoi on n'arrive pas... Alors que tu as cité le chiffre en 10 ans, grosso modo, donc 100 000 postiers ont été... il y a une suppression de postes de 100 000. Pourquoi on n'arrive pas à faire des grèves nationales à la Poste? Pourquoi c'est si dur d'étendre les grèves?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Là, c'est un avis personnel. La première raison, c'est que c'est la structure de l'entreprise. C'est une entreprise très décentralisée, qui est présent sur tout le territoire, qui est divisé en un certain nombre de métiers, qui est très divisé en termes de statut. Ça va du banquier jusqu'au sous-traitant. Aujourd'hui, ceux qui livrent les colis, quand vous commandez un colis quelque part et que c'est la Poste qui vous le livre, c'est plus des postiers qui vous les livrent la plupart du temps. La plupart du temps, c'est des sous-traitants de toutes petites entreprises avec des conditions de travail. Il y a un peu plus d'un an, il y a un de ces sous-traitants-là qui est mort parce qu'il y avait tellement de pression. Il travaillait sans contrat pour pouvoir décrocher son contrat. Il a livré des colis, c'était au moment des fêtes. Et il s'est noyé dans la Seine parce qu'il avait fait tomber un colis à l'eau en livrant sur une péniche à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Et il est mort en se noyant dans la Seine. Bon, c'est pour vous donner une idée. Donc on a ça. On a des travailleurs sans papier, intérimaires, etc., etc. On a des banquiers. On a des gens qui travaillent sous la convention collective Poste. On a des gens qui travaillent sous la convention collective des transports. Bon, c'est très, très, très divisé. C'est une des raisons pour lesquelles la conflictualité sociale à la Poste, c'est énormément de conflits, beaucoup, mais très, très, très dispersés et très localisés, comme tu le disais. Je pense que la deuxième raison, c'est la stratégie de la Poste. C'est-à-dire qu'évidemment, elle ne réorganise pas, elle n'est pas arrivée en disant, au début des années 2000, en disant, elle n'a pas sorti une affiche en disant « Notre objectif, c'est supprimer 100 000 emplois. Et on va supprimer 100 000 emplois d'un coup. » Non, ils y sont allés en tranche. La stratégie du salami, quoi. Métier par métier, ça porte des noms différents, les restructurations dans les centres de tri, chez les facteurs, au guichet, etc. Et établissement par établissement, et même service par service. Donc forcément, ça a tendance à fragmenter les réactions. Et il y a une autre raison, à mon avis, la troisième raison, c'est que les organisations syndicales, pour la plupart d'entre elles en tout cas, ne se préoccupent absolument pas de regrouper ces bagarres. C'est très difficile à faire, hein, par ailleurs. Hein. Il ne suffit pas de vouloir le faire pour y arriver. Mais à partir, on va dire, de cette fragmentation un peu spontanée des bagarres qui est un peu inévitable, il y a les organisations syndicales, on va dire, globalement, se préoccupent à mon sens trop peu de tisser des ponts entre les centres, entre les métiers, même si c'est très difficile à faire.
Et puisque tu as abordé la question, quelle est l'attitude des différents syndicats par rapport à la lutte en cours ?
Au niveau local, nous on est l'organisation majoritaire, assez largement, hein, on fait 45% aux élections, c'est ça qui ne plaît pas tellement à la direction, c'est qu'on soit à la fois majoritaire et en même temps plutôt combatif. Donc c'est nous, on va dire, qui animons le conflit en termes de militants syndicaux. On a un soutien de la CGT dans un certain nombre une implication des militants CGT locaux dans quelques centres, pas dans tous, et on a la position de la CGT au niveau du 92 qui est de soutenir la grève, même si elle n'est pas tellement impliquée dedans. Et ça, c'est côté sud CGT. Et on a FO et la CFDT qui militent ouvertement contre la grève. On a même eu un tract Île-de-France de la CFDT qui nous calomniait en disant qu'on tapait les gens, d'ailleurs, on va les poursuivre pour ça. Hein. C'est des injures publiques, de la diffamation. Donc voilà, ils s'en sortiront pas. Enfin, je parle des dirigeants de la CFDT au niveau Île-de-France. Ils s'en sortiront pas sans rien. Quoi.
On dirait que c'est une tradition qui est respectée de la part de la CFDT. Mais bon. Et pour ce qui concerne les formes d'organisation de la lutte, comment fonctionner un intersyndical, un assemblée, un comité de grève
On fonctionne principalement de deux manières. On a une assemblée générale quotidienne, et c'est dans le cadre des assemblées générales qu'on prend les grandes décisions sur la reconduction de la grève d'abord et avant tout, et sur le type d'action à mener. Ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. C'est à la fois une question de démocratie et même d'efficacité, parce que pour les grévistes, tu te sens plus impliqué quand tu vois. Parce que je prends l'exemple de l'occupation... de la visite du siège du colis aujourd'hui, c'est un collègue qui n'est pas du tout un responsable syndical qui l'a proposé en AG. On a dit « Ah bah ouais, super, bonne idée !» Tout le monde était d'accord. Et là, on voit bien dans ces situations-là, les grévistes, ils voient que la voix de chacun compte, à la fois en termes de proposition, en termes de vote. Bon. Et ça, c'est l'AG. Et on a toutes les après-midi un comité de grève avec des représentants de chacun des bureaux qui viennent. Alors, c'est pas élu en assemblée générale, c'est on voit dans chaque AG qui vient en comité de grève. C'est un peu plus au volontariat qu'autre chose, sur cette grève-là en tout cas.
C'est que des syndiqués ou syndiqués non syndiqués ?
C'est syndiqués non syndiqués. Okay. Il y a pas mal de non syndiqués en réalité qui participent, des jeunes, pas mal de jeunes. Le comité de grève sert à grosso modo exécuter, organiser ce qu'on a décidé en AG, d'essayer de le mettre en œuvre et de préparer la journée du lendemain dans les détails. Si on décide par exemple d'une occupation, voilà comment on va faire, contacter les élus, contacter... tout le boulot de construction de la grève. Et ça, c'est à la fois des formes d'organisation démocratique, mais aussi c'est ce qui est le plus efficace. Faire participer un maximum les grévistes à l'animation du conflit, c'est ça qui permet de multiplier les forces, quoi. Parce que si c'est juste une minorité qui décide, c'est aussi qu'une minorité qui fait le travail, c'est moins efficace.
Oui. Oui, bah écoute, là, je crois que tu as brossé un tableau d'une grève qui marche. Et au fil des années, dans cette émission, on a constaté que c'était toujours comme ça. Quand ça fonctionne de cette façon-là, en général, ça marche. Et quand ça marche, c'est parce que ça fonctionne de cette façon-là.
Alors après, on ne veut pas non plus, comment dire, on ne veut pas non plus prétendre ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, on ne sait pas si on va gagner. Hein. Une lutte, par définition, et l'objectif de la boîte, faut pas mentir, c'est de nous casser la tête. Là, on a Gaël qui rentre. C'est sa septième procédure, son septième entretien préalable au licenciement là qu'il a eu pendant le et sa précédente procédure de licenciement, elle n'est pas encore terminée. Bon, on a Yann Le Mérère, il est en mise à pied en ce moment pendant un an. Il n'a pas de salaire pendant un an. Enfin, on maintient le salaire nous, mais ça fait un an de cotisation retraite en moins. Hein. Il va devoir bosser un an de plus dans sa vie. Enfin, un an, deux ans et demi parce qu'il s'était déjà pris un an et demi de mise à pied il y a deux ans. Bon, donc ils veulent vraiment nous casser la tête. Mais là où je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est on a pu constater que la seule manière de gagner, c'était de lutter. C'est une platitude, hein, c'est une banalité ce que je dis. Mais je reviens à Rueil, le bureau d'où est partie la grève. C'est, pour nous, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est le seul bureau de toute la France métropolitaine, il me semble, il faudrait vérifier, mais qu'en Corse et en Guadeloupe, il y a quelques bureaux qui sont dans le même cas que Rueil, mais en tout cas dans la France métropolitaine, c'est le seul, qui n'a pas subi de restructuration depuis 1999. La plupart des bureaux en France ont connu 2, 3, 4, 5 restructurations, avec à chaque fois des suppressions d'emplois. Rueil-Malmaison, ils n'ont pas connu, ils travaillent encore en samedi sur deux, et avec le respect du principe pour une tournée, un facteur, et pour un facteur, une seule tournée. Toutes les réorganisations qu'il y a depuis le milieu des années 2000, grosso modo, ça s'appelle facteur d'avenir. On avait déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres émissions, c'est l'idée de, quand tu as un facteur, je schématise un peu, mais quand il y a un facteur qui est absent sur une équipe de 5 ou 6, les autres se partagent sa tournée et c'est pas payé. Et l'objectif de la boîte, c'est d'étendre ce principe d'auto-remplacement à toute la semaine, toute l'année. Bon, à Rueil, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait... Il y a un collègue qui disait ça, c'est un collègue de Rueil, un gréviste, qui a dit « J'ai perdu 4 mois de salaire, mais j'ai gagné 8 ans de vie. » J'ai gagné 8 ans de vie. Et c'est le bureau où il y a le moins d'arrêts maladie de tout le département, comme par hasard. Voilà, on se bat pour préserver notre vie, quelque part. Parce que dans les coins où ils se sont mangés le plus de réorganisation, les facteurs, dans certains coins, dans le 78, en province, ils finissent à 15h. Ils commencent à 6h ou 7h, ils finissent à 15h. Et c'est pas payé les dépassements horaires. Et ils sont crevés. Il y en a plein qui craquent, les suicides dont on parle. On en parle de moins en moins, même si ça continue. Ça vient pas de nulle part. C'est cet alourdissement de la charge de travail, c'est cette pression managériale. Bon, bah... Les collègues de Rueil, ils sont la preuve vivante que ces restructurations-là, ce n'est pas une fatalité. Et donc pour nous, c'est vrai que lutter, alors on ne sait pas si tu gagnes, tu perds, des fois tu perds.
Ouais, comme on dit, les seules luttes dont on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas.
Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et en tout cas, on espère qu'à notre petite échelle, à notre modeste échelle, qu'on va encourager d'autres à essayer de mener des bagarres, plusieurs bureaux, plusieurs métiers à la fois, même peut-être plusieurs secteurs à la fois, hein. Par exemple Rueil, on parle de Rueil. Rueil, c'est aussi un bureau qui a non seulement participé à chaque fois à quasiment tous les conflits, enfin beaucoup de conflits qu'il y a eu sur le 92, même quand ils n'étaient pas directement concernés, mais qui ont participé aux grèves sur les retraites, sur le CPE. Voilà, c'est pas un hasard. Et parfois, se bagarrer en solidarité avec d'autres, c'est la meilleure manière de se défendre soi-même, hein.
Alors 37 jours de grève pour vous faire payer, est-ce que vous avez mis en place une caisse de grève?
Ouais. Bah ça, c'est une nécessité, hein, quand on a des petits salaires, quand on fait grève. Avant 2009, les retenues sur salaire, elles se faisaient à la fin du conflit. Maintenant, c'est directement pendant le conflit. Et là, pour la première fois sur ce conflit-là, on a eu des salaires à 0 euros. Il y a 15 grévistes de Rueil qui se sont retrouvés avec 0 euros de paye au bout du premier mois de grève. Bon, je peux vous dire que ça n'a pas été facile à gérer. On a réussi à maintenir... Il n'y a personne qui a repris le travail suite à ça. Pourquoi ? Ben parce qu'on a été en capacité, avec la caisse de grève, de maintenir 800 euros de salaire pour tous les collègues. À tel point que la boîte, en voyant ça, au final, elle a reculé. Elle a dit, ah ben finalement, on vous reverse le minimum vital, qui est équivalent au RSA. On vous redonne 2 semaines de salaire. Voilà. Et du coup, ces 2 semaines de salaire redonnées par la boîte, les collègues les reversent dans la caisse de grève pour les redistribuer.
Alors la caisse de grève, elle est alimentée comment, la caisse de grève ?
Par les dons de solidarité de tout le monde. Donc je vais peut-être donner les coordonnées.
Oui,
donc il faut envoyer vos chèques à Sud Poste 92, au 51 rue Jean Bonal. Jean, B-O-N-A-L, 92-250, La Garenne-Colombes. Et au dos du chèque, il faut mettre la mention solidarité gréviste.
Alors, répète-le une fois. Sud. Alors, les auditeurs, prenez vos stylos.
Sud, poste 92, 51 rue Jean Bonal, B-O-N-A-L, 92-250, La Garenne-Colombes. Il faut mettre au dos du chèque la mention solidarité gréviste. Et ça, c'est ça qui nous aide à tenir. Si on n'a pas, si on n'a pas cette solidarité-là, c'est impossible de tenir.
Est-ce qu'aussi des structures syndicales qui ne sont pas encore en grève aussi vous versent un petit peu d'argent
Oui, oui, oui. Voilà. Bah, on a quand même on a un soutien de notre fédération SUPTT au niveau national. On a toute une série de syndicats sud, beaucoup de syndicats sud au niveau départemental qui nous ont fait des dons. Mais on a aussi des syndicats CGT qui n'ont rien à voir avec la Poste, hein, des fois, qui envoient des chèques, des particuliers. Ouais, je le répète, c'est cette solidarité-là qui permet de tenir, quoi.
Alors, toujours avec votre beau stylo, le site, tu as parlé d'un site tout à l'heure.
Alors, il faut que je retrouve le. Je ne vais pas réussir à la retrouver rapidement, mais pour la trouver, vous mettez sur Google blog postier gréviste Tumblr, T-U-M-B-L-R, et vous tombez dessus. C'est un Tumblr, c'est un blog. Vous mettez sur Google et vous trouvez.
Et puisqu'on est un petit peu sur tous les rendez-vous, bah, qu'est-ce qui va se passer demain, par exemple? Est-ce qu'il y a effectivement, d'ici la fin de semaine, voire effectivement le week-end et puis la semaine prochaine, est-ce qu'il y a déjà des rendez-vous de programmés?
Alors demain, il y a un rassemblement devant la direction départementale de La Poste à 18h. C'est au 3 boulevard du Levant à Nanterre. Ce sera un rassemblement en présence d'élus qui viendront soutenir. Il y a un certain nombre d'élus qui nous soutiennent au niveau local.
Alors pour s'y rendre, question très pratique.
RER Nanterville, c'est à même pas 10 minutes à pied. 3 boulevards du Levant. Et samedi, à Nanterre aussi, mais au 7 boulevard du Général Leclerc, à la salle des Guignons, il y a une fête de soutien aux postiers grévistes. Donc pareil, RER Nanterville, à 5 minutes du RER. Pour tous ceux qui souhaitent nous soutenir, vous pouvez venir. Voilà, il y aura à la fois... On danse, on s'amuse et... il y a la possibilité de boire un coup, de manger un petit bout, à partir de 20h, jusqu'à minuit.
Vous vouliez rajouter quelque chose pour ce qui concerne vos rendez-vous?
Non, peut-être pas pour ce qui concerne les rendez-vous, mais je crois que l'un des points communs, même si on est loin d'atteindre leur niveau de mobilisation, l'un des points communs qui existe entre ce qui se passe dans le 92 et notamment dans notre établissement et puis la grève des postiers, je pense qu'il faut dire que c'est des choses qui se construisent aussi sur la durée. C'est-à-dire que ce qui permet aussi d'atteindre des niveaux de mobilisation très forts, que ce soit à la Poste dans les Hauts-de-Seine ou que ce soit dans des établissements comme le mien, c'est la solidarité de tous les jours. Parce que sur les dernières années dans notre établissement, Rémi disait tout à l'heure qu'il y avait une certaine tradition de lutte, mais cette tradition de lutte, elle n'est pas liée au fait que les gens soient ont une conscience politique ou syndicale plus développée qu'ailleurs et tombent là parce qu'ils auraient été recrutés sur ce critère. Mais finalement, ils arrivent dans un milieu où, quand il y a un problème qui se pose à quelqu'un, bah, on en parle tous ensemble et on essaye tous ensemble de se mobiliser pour le régler. Et je pense que... donc, il y a une mobilisation pour les agents dans mon lycée l'année dernière. Il y a une mobilisation pour des collègues en particulier. Et on essaye d'impliquer tout le monde. Et je pense que ça développe des réflexes de solidarité et des réflexes collectifs qui se retrouvent au moment de ce genre de bagarre. Et bon, il est clair que les copains de Sudpost 92 ont une histoire là-dessus qui explique en grande partie quand même leur capacité de mobilisation, parce qu'on entend souvent parler partout qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de mobilisation, que les gens ont le moral dans les chaussettes, que tout le monde est résigné. C'est pas une fatalité, comme ça a été dit, hein. C'est pas une fatalité, mais c'est au quotidien, à mon avis, que ça se construit avec les collègues, sur son lieu de travail, éventuellement dans son quartier. Et c'est pas des choses sur lesquelles on doit être fataliste, parce qu'il est évident que si on s'y met tous, comme ils le font, à finalement une poignée dans leurs occupations, etc., on est capable de gagner beaucoup à une poignée. Alors qu'est-ce que ce serait si on arrivait à créer des mobilisations plus larges? Alors, on en a tout à fait les moyens. On a tout à fait les moyens de gagner, y compris contre des gouvernements comme le nôtre ou contre des appareils plus gros.
Alors mobilisation plus large, peut-être des opportunités, hein, on verra. Le 13 mars, puisque mobilisation à La Poste et à la fois l'éducation nationale. Et puis au niveau interprofessionnel, eh ben, il y a aussi le 18 mars. Hein, donc il y a des rendez-vous sociaux dans les prochains jours et prochaines semaines.
Merci à vous et
merci.
À dans 15 jours. Et là, on cède l'antenne à Zoom Écologie.